un de ses amis qui était également le mien, mais qui était avant tout d'abord un grand ami de Gilles Deleuze et un philosophe de la taille de Gilles Deleuze, qui est Jacques Derrida, dont vous avez appris la mort, qui est tout à fait, non pas inattendu malheureusement, puisqu'il était malade, mais extrêmement affligeante, parce que avec Jacques Derrida, c'est encore un philosophe de cette qualité, de cette catégorie, de cette race, on pourrait dire, puisque on parle parfois de race de penseurs, de race de philosophes. Or, je crois que Derrida appartenait à cette race de philosophes qui, avec une vitesse extraordinaire, se sont mis à mourir. Et ça me rend furieux d'ailleurs, parce que je suis non seulement de leur âge, mais je suis même plus âgé qu'eux, ces dernières années. C'est-à-dire après Deleuze, après Châtelet, après Deleuze, après Lyotard. Il y avait d'abord un de mes amis qui, lui, n'était pas tout à fait de la même époque, mais qui était également associé dans la pensée énormément à Félix Guattari et à Deleuze, qui était Guy Oquinguem, qui était un de mes amis très proches, et qui était aussi à l'université de Vincennes. De sorte que si nous comptons avec Oquinguem, nous avons Guy Oquinguem, François Châtelet. Il faut associer l'autre Châtelet, qui était également philosophe, Gilles Châtelet, pardon, c'est quand ça en fait encore deux, qui était aussi à Vincennes, qui était philosophe mathématicien, Félix Guattari, Gilles Deleuze, Jean-François Lyotard. Je pense qu'on peut y compter également, je ne le connaissais pas personnellement, mais enfin il était très proche également de nous, Pierre Bourdieu. Et ensuite Derrida, je dis race de philosophes parce que ce sont des philosophes qui étaient des philosophes que l'on appellerait dans un langage un peu archaïque, parce qu'il n'est plus utilisé, il était sartrien, mais enfin pourquoi ne pas l'utiliser? Guattari ne le refusait pas pour lui-même, des philosophes engagés, c'est-à-dire des philosophes qui n'ont jamais pensé que la philosophie ne devait pas être un instrument de lutte, une arme de lutte, par le moyen de la pensée, bien entendu, mais même parfois avec des engagements très réels, des engagements très, très physiquement courageux. J'ai oublié Foucault, je ne sais pas pourquoi j'ai oublié Foucault, mais parce que, effectivement, il viendrait peut-être aussi en premier lieu de ces philosophes de lutte et d'engagement. Donc il y a en fait encore Foucault. Bon, maintenant, je n'ai plus assez de doigts dans la main pour les compter. Donc je ne les compte plus, mais je dis que la disparition de Derrida est effectivement... C'est une perte extrêmement affligeante, à la fois à cause de l'homme, mais à la fois aussi d'ailleurs à cause de cet exercice de la pensée dont on peut craindre qu'il ne soit plus exactement suivi de la même façon. Parce qu'en général, Derrida était un homme que l'on dit international, c'est vrai. Il était donc peut-être, il avait donc déjà de son vivant une grande notoriété. Mais d'autre part, il n'était pas particulièrement aimé. Parce que ailleurs, je ne dis pas que tous les philosophes du monde sont aux ordres des États, du gouvernement, de la politique, du capitalisme mondial. Ça serait un petit peu exagéré. Mais peut-être est-ce... sans être chauvin, on pourrait dire peut-être est-ce la particularité de ces philosophes français de n'avoir pas été exclusivement des spécialistes de la philosophie ou des universitaires renfermés dans leur pensée universitaire, mais de s'être occupés du dehors, de l'extérieur, d'avoir touché à des choses qui n'étaient pas leur spécialité, de n'avoir pas enfermé la philosophie dans une spécialité professorale. C'est quelque chose que, aux États-Unis, par exemple, on n'a pas pardonné à Derrida, ni à Deleuze, ni à Lyotard, bien qu'ils y soient allés, d'ailleurs. Donc, parce que ce sont des gens qui sont très attentifs à la spécialisation de la philosophie, comme si la philosophie était une spécialisation. Bon, elle est bien une spécialisation si l'on veut, dans une certaine mesure, mais une spécialisation de ceux qui précisément débordent toutes les spécialités et dont le privilège est de pouvoir tout concerner. Je ne vais pas épiloguer là-dessus après avoir rendu cet hommage qui se devait à Derrida. Je me contente peut-être d'une petite phrase que j'avais détachée à la fin d'un petit livre qui est le recueil d'un entretien autour de foi et savoir de d'il y a quelques années, 99 je crois, et à la fin il aborde avec le style qui lui est propre, c'est-à-dire avec beaucoup de complications, beaucoup de d'allers-retours, de réticences, de mouvements de non pas de repentir, mais de mouvements de qui sont des retours sur ce qu'il vient de dire et une critique du langage, des expressions. Il aborde la question du pardon à la fin et, à juste titre d'ailleurs, manifeste un petit peu son irritation envers toutes ces repentirs, ces pardons distribués un petit peu partout et qui ne sont en définitive que des alibis de la violence. Je ne résume pas l'ensemble de ce petit livre qui est extrêmement intéressant, qui traite également d'une question tout à fait actuelle avec foi et savoir, qui est celle de la religion, du religieux tout au moins, qui est une question tout à fait d'actualité. Je me contente de détacher une phrase et en la laissant un petit peu sans commentaire, c'est la dernière. Ce dont je rêve, ce que j'essaie de penser comme la pureté d'un pardon digne de ce nom, ce serait un pardon sans pouvoir, un inconditionnel mais sans souveraineté. La tâche la plus difficile, à la fois nécessaire et apparemment impossible, ce serait donc de dissocier inconditionnalité et souveraineté. Le fera-t-on un jour? C'est pas demain la veille, comme on dit, mais puisque l'hypothèse de cette tâche imprésentable s'annonce, fût-ce comme un songe pour la pensée, cette folie n'est peut-être pas si folle. Je retiens simplement le dernier mot, c'est-à-dire que ce dernier mot, c'est la folie, c'est-à-dire il y a effectivement dans ce genre de pensée, dans ce genre de philosophie qui mise sur quelque chose qui est l'impossible, mais qui le maintient contre les entraves et contre les difficultés du temps présent, contre le réalisme qui s'empare de tant de philosophes qui veulent être les conseillers du prince, contre cela, Derrida justement prend le parti de ce qu'il a appelé, à propos de certaines valeurs fondamentales, comme par exemple l'hospitalité, l'hyperbolique. Et de la même façon, il parle à propos justement ce pardon qui est pris dans tant d'entraves et dans tant de compromissions qui sont extrêmement malséantes à l'heure actuelle dans le jeu des tribunaux internationaux et des politiques internationales. Il emploie également cette prise de parti de la philosophie comme une sorte de folie. Cela me permet peut-être de relier avec Deleuze. Très justement, c'est une expression de Deleuze d'ailleurs, de lui-même, le dernier recueil qui a été fait de ses écrits dispersés un peu partout, non pas inédits, mais les articles qui avaient été édités, publiés de différentes manières, c'est deux régimes de fous. Je ne retiens au passage également cette idée de fou, c'est-à-dire il y a dans la philosophie de Deleuze quelque chose qui est également une certaine forme de folie revendiquée, mais de la philosophie comme folie, une sorte d'éloge de la folie comme à travers cet éloge de la folie, Erasme au XVIe siècle faisait en fait l'éloge de la raison, l'éloge de quelque chose qui dépassait la sagesse raisonnable et le réalisme existant. De la même façon, la folie de Deleuze est quelque chose qui dépasse les systèmes rationnels, qui dépasse les différents systèmes définissant la raison de l'homme, définissant même l'homme en tant qu'être raisonnable, en tant qu'animal raisonnable. Donc, dans la philosophie, il y a quelque chose qui est un dépassement de tout cela et qui emporte la pensée dans un mouvement qui est celui du décrochage à travers à l'égard de tout ce qui est idée reçue, de tout ce qui est pensée commune, de tout ce qui est façon courante de parler et également enfermement dans un certain nombre de valeurs et de croyances. Ce que Deleuze ainsi que Guattari d'ailleurs appelleront la déterritorialisation, qui est un des grands concepts, un des grands mots de leur philosophie. De la même façon, puisque je parlais de Derrida, que ce fameux concept de déconstruction, qui est celui de la démolition un peu de toutes les préjugés, les croyances, les valeurs ou pseudo-valeurs du sens commun et ceux qui sont traînés également dans la philosophie traditionnelle véhicule, la déterritorialisation dans la philosophie de Deleuze joue un petit peu le même rôle. Elle nous entraîne ailleurs toutefois. Vous avez vu dans le tombe d'Derrida qu'il y a chez lui beaucoup de, peut-être, de kantisme, de fidélité à une certaine forme de juridisme kantien, bien qu'il dépasse un peu cette raison jugeante de Kant. Chez Deleuze, c'est le contraire. On pourrait dire que chez lui, c'est la raison voyante. Il l'a dit à propos de Foucault, mais je crois que ça lui convient parfaitement pour lui. La raison voyante, c'est-à-dire celle qui va d'emblée, qui va en quelque sorte comme... qui franchit d'un bond, comme l'éclair, toutes les difficultés, les obstacles, qui va toujours d'un trait à l'essentiel. Il y a une certaine... sa pensée procède, c'était Foucault qui l'avait dit à son égard, d'ailleurs aussi, puisque tous ces penseurs se connaissaient et pouvaient s'apprécier réciproquement. Ils ont écrit les uns sur les autres. Deleuze a écrit un grand livre sur Foucault en particulier, mais pour en revenir à cela, Foucault disait que Deleuze procède par fulguration, ce qui est parfaitement vrai. Il procède par fulguration, non pas qu'il ne raisonne pas, loin de là, que ses raisonnements ne soient pas extrêmement précis, extrêmement motivés, mais l'essentiel pour lui, c'est précisément cette vision directrice, quelque chose qui emporte vers une image qui est différente, une image de la pensée qui va s'imposer dans toute l'œuvre de Deleuze, qui est différente de celle qui est imposée précisément autour de la raison jugeante, autour du jugement, autour du moi comme centre, autour même de cette figure de l'homme que l'on met au centre souvent de la philosophie. Foucault avait commencé par détrôner l'homme, le moi, et Derrida aussi d'ailleurs dans le même sens, le fera aussi pour le sujet, le sujet pensant, le cogito cartésien. Il avait commencé par les détrôner de leur place centrale, mais peut-être que chez Deleuze, cela est pris avec plus de avec plus d'élan, pourrait-on dire, avec plus de joie, avec plus de foi. Il y a dans la base de la philosophie de Deleuze, si chez Derrida il y a toujours quelque chose qui tient de la philosophie critique du jugement, il y a toujours chez Deleuze quelque chose qui est une foi dans le monde, une foi dans la vie, et en même temps une joie qu'il a repris d'une façon très explicite à la philosophie de Spinoza. Une joie qui est assimilée à une puissance d'agir, à une force de ce qu'il appelle l'affect. Donc c'est une philosophie qui, tout en étant parfaitement construite du point de vue, encore une fois, de la logique, de la raison, des arguments, est emportée par un mouvement, est emportée par quelque chose que j'appellerais une vision, puisque je le caractérise peut-être de voyance, c'est-à-dire de déplace, quelqu'un qui déplace les axes, qui déplace les centres, qui jette un éclairage sur quelque chose que l'on n'avait pas aperçu tout d'abord. De sorte que cette philosophie, c'est, j'ai la tâche de vous, sinon la faire connaître, parce que je pense que beaucoup d'entre vous connaissent déjà la pensée de Deleuze, mais tout au moins d'attirer l'attention sur certains points et d'apporter un peu ma contribution à sa connaissance. Cette philosophie est peut-être abordée par différents bouts. Il disait lui-même qu'il n'y a pas de commencement, en quelque sorte, dans la philosophie, ou dans la philosophie telle qu'il la conçoit, telle qu'il la présente. Et il n'y a pas d'abord, il ne faudrait pas commencer par quelque chose, comme Descartes, par exemple, qui commence par les premières évidences, le cogito, etc. Bon, c'est une voie, c'est une possibilité. Ce n'est pas celle qu'adopte Deleuze dans son œuvre, ni dans les conseils qu'il donne à la lecture de son œuvre. Il a toujours dit, il faut commencer au milieu. On est toujours, de toute façon, au milieu. On peut prendre la chose par des bouts différents, et l'ensemble vient une fois qu'on a bien accroché ses bouts et que l'on a vu par où le prendre. Moi, je prends Deleuze, alors là, j'entre un peu, après ces propos à bâton rompu, j'entre un peu dans le vif de mon propos. Je ne serai pas long, d'ailleurs, parce que je n'aurai pas le temps de faire incontestablement une dissertation. Je dirai par quel bout prendre Deleuze, ou par quel bout je pense peut-être que ce soir on pourrait le prendre. Il y a d'autres bouts par lesquels on pourrait le prendre, on pourrait entrer dans la pensée de Deleuze de différentes manières. Là, étant donné que les circonstances m'ont amené à parler de Derrida, m'ont amené à parler justement de la raison jugeante ou de la raison critique, de la réflexion critique, et de quelque chose qui est autre chose, c'est-à-dire qui nous porte un peu en dehors du jugement, en dehors de la critique, et qui nous fait décrocher par rapport à la préoccupation centrale de fixer l'attention sur le sujet humain, sur l'homme comme sujet, sur la conscience, la réflexion de soi, qui détrône en quelque sorte ce privilège de la réflexion, je le prendrai par le bout précisément qui n'est pas celui de l'humanisme, qui est l'opposition de la pensée de Deleuze à une certaine conception traditionnelle de la philosophie à partir de ce qu'on a appelé l'humanisme. En ce sens, d'ailleurs, il est très voisin de la pensée de Foucault, puisque la pensée de Foucault, pour une grande part, est également consacrée à une critique de l'humanisme, à une critique de cette figure de l'homme telle qu'elle a été constituée comme étant comme si elle était quelque chose de stable, comme si elle était quelque chose de parfaitement défini. Non, l'homme n'est pas quelque chose de parfaitement défini, mais quelque chose de stable. C'est une figure de l'histoire, une figure transitoire, une figure provisoire. Mais ce qui est, ça ne veut pas dire que la philosophie que l'on va construire à partir de cette façon de détrôner, de décrédibiliser tout ce qui est dit au nom de l'homme va être une philosophie inhumaine, une philosophie dirigée contre l'homme. Non, c'est tout à fait le contraire. Elle va être consacrée à libérer ce que une croyance trop naïve, trop simpliste, trop traditionnelle et trop artificielle dans la réalité de l'homme, dans la définition traditionnelle de l'homme, avait dissimulé. c'est-à-dire des forces, des potentialités, des affects, des mouvements, etc., des passions. Tout cela qui se dissimule derrière une physionomie très compassée, une définition très restrictive de l'homme, que l'on voit d'ailleurs aussi se cacher dans l'allégation souvent tout à fait formelle de la notion de droit de l'homme au nom desquels d'ailleurs on justifie souvent des oppressions, des injustices, des dominations de telle et telle personne ou de tel et tel état, de telle et telle nation l'une sur l'autre. C'est en marge, en rupture avec cette croyance centrale dans l'unité, dans la stabilité et dans la certitude de la notion de l'homme que la philosophie de Deleuze se développe. Et je vais prendre justement un point par lequel, un bout par quoi accrocher cette critique de l'homme, qui n'est pas encore une fois une condamnation de l'homme, mais au contraire une libération de ce qui est dissimulé derrière ce masque, derrière cette figure artificielle. C'est précisément ce que souvent la philosophie a opposé à l'homme comme étant sa contrepartie, sinon son contraire, du moins ce qu'il n'est pas, c'est-à-dire la bête, l'animal. L'homme, la bête, eut toute une partie de la philosophie, de la grande philosophie, de la métaphysique, a été consacrée à opposer l'homme dans sa spécificité, quitte d'ailleurs à dire que c'est un animal raisonnable, en refusant par conséquent une des qualités fondamentales de l'humanité à l'animal, ou bien que l'homme c'est un animal parlant, en lui attribuant uniquement à lui-même la possibilité du langage, ou alors d'une façon plus générale, lui attribuant cette qualité que la métaphysique a attribuée par excellence à l'homme, c'est-à-dire l'âme. Deleuze s'inscrit avec l'animal dans ce que l'on pourrait considérer comme une des grandes problématiques de la philosophie classique, qui avait déjà été d'ailleurs suscitée au moment du classicisme autour de cette idée justement de la raison des animaux, de la question de savoir si les animaux avaient une âme. Là, vous connaissez la thèse cartésienne qui est celle de l'animal-machine. Seul, je ne prends que la philosophie de Descartes, parce que l'on pourrait également développer cette recherche du côté de la philosophie antique, cela nous mènerait trop loin, mais du côté de la philosophie moderne, nous sommes en présence de la thèse cartésienne. La thèse cartésienne, l'homme seul a une âme. Ce qui caractérise l'homme, c'est la possession d'une âme, et l'animal n'a pas d'âme, l'animal est une machine. Il y a bien une machine en l'homme, mais la machine humaine est commandée par l'âme, l'homme, l'animal n'est que machine. Déjà au XVIIe siècle, cette thèse avait été d'ailleurs contestée. Elle avait connu l'opposition en particulier de Leibniz et d'autres penseurs moins célèbres que Leibniz, comme par exemple Bell dans son dictionnaire, qui, en utilisant cette fois une référence au sens commun, attribuer toutefois une âme aux animaux et même une certaine forme de raison. Deleuze, dans une certaine mesure, reprend ce problème. Il reprendra la philosophie de Leibniz pour une grande part, d'ailleurs, dans un de ses livres majeurs, Le Pli. La thèse de Leibniz selon lequel il n'y a pas uniquement il n'y a pas uniquement une pensée et une âme chez l'homme, mais l'ensemble de l'univers est plein d'âmes. L'univers est formé d'une multiplicité de monades, et les animaux sont également de ces monades qui, à des degrés divers, sont à mettre sur le même plan que l'homme en tant qu'expression de l'ensemble de l'univers. La philosophie de Deleuze prend un peu son point d'appui sur cette philosophie leibnizienne qui va intégrer à la fois l'homme, à la fois l'ensemble de l'animal, à la fois l'animal dans l'ensemble de l'univers. Mais ce n'est pas de ce point de vue-là que je pense aborder le problème de l'animal chez Deleuze. C'est pour vous faire sentir que Deleuze s'insère dans une problématique qui va lui ménager dans l'ensemble de la philosophie contemporaine une place particulière en tant que il renoue avec une tradition que la pensée philosophique, métaphysique de tradition cartésienne avait écarté, avait laissé tomber. Cette tradition qui est celle de la place centrale de la pensée humaine dans l'ensemble de l'univers qui crée relativement à l'homme une spécificité, une différence essentielle. Ce qui commande la pensée de Deleuze, c'est précisément qu'il n'y a pas de privilège de la pensée humaine, qu'il n'y a pas de privilège de l'homme, bien que, d'une certaine façon, la pensée humaine soit elle-même en position de comprendre l'ensemble de comprendre l'expression même de l'univers. C'est une des thèses fondamentales de Deleuze que il y a une multiplicité d'êtres, mais il n'y a qu'une unité, il n'y a qu'une univocité de l'être. C'est-à-dire que l'être est dit dans tous les êtres de la même façon. Il n'y a pas d'être qui soit transcendant par rapport à d'autres êtres. La philosophie d'origine cartésienne, en attribuant à l'homme exclusivement l'âme, dans ses prolongements dans la pensée contemporaine, dans la phénoménologie, chez Heidegger également, attribue à l'homme une transcendance relativement à l'ensemble de la création. Deleuze rompt avec cette pensée. Il n'y a qu'un être, il n'y a qu'une affirmation de l'être, il y a une immanence absolue de l'être qui est dit de la même manière lorsqu'il s'agit des animaux, lorsqu'il s'agit des plantes, lorsqu'il s'agit du vivant et lorsqu'il s'agit de l'inorganique. Cette grande vision de l'univers chez Deleuze est l'affirmation de la grande vie de l'univers, qui est en même temps la vie de l'organique et la vie de l'inorganique, la vie de l'animal et la vie de la et la vie de l'homme, de la pensée humaine. C'est ce que l'on voit développer dans différents textes. J'avais pris ici essentiellement comme point d'appui, peut-être comme interprétation de la place de l'animal dans la pensée de Deleuze, les textes qu'il a écrit avec Félix Guattari de 2000 plateaux, ceux qui sont consacrés à ce qu'il appelle le devenir animal qu'il situe dans l'ensemble d'un chapitre consacré à cette idée de devenir. Pour me résumer, je dirais que si la pensée, dans la pensée classique, le problème était de savoir si l'animal a une âme ou s'il n'en a pas, ou s'il est une machine. Si la philosophie de Leibniz, comme je vous l'ai laissé entendre tout à l'heure, contre la philosophie de Descartes, attribue une âme à l'animal prépare en quelque sorte cette idée qu'il n'y a pas de privilège absolu de la pensée humaine relativement à la pensée animale. La position de Deleuze et celle de Guattari, puisque c'est avec lui qu'il a travaillé sur ces questions, est un petit peu différente. Il attribue, c'est-à-dire il dépossède en quelque sorte l'homme d'une certaine priorité, d'une certaine suprématie sur le monde animal. Mais en même temps, il va relier l'animal à l'homme autour de notions comme celle, par exemple, de territoire, de territorialisation, qui sont communes à l'homme et à l'animal. L'animal, dans la philosophie, par exemple, heideggerienne, on attribue à l'homme la possibilité d'avoir un monde. L'homme seul a un monde, a la possibilité de constituer un monde autour de lui. L'animal n'a qu'un territoire, et il n'a pas de monde. La position de Deleuze est différente, c'est-à-dire l'homme aussi a un territoire, mais en même temps, il consacre son activité à sortir en permanence de ce territoire. Et une des façons d'ailleurs de sortir de ce territoire, c'est en se rapprochant de l'animal, en faisant avec l'animal un certain nombre de sociétés, d'agencements qu'il appelle les devenirs animaux dans les différentes œuvres, dans les différentes formes de création, création artistique, création littéraire, les différentes activités qui sont des activités de magie, activités de sorcellerie, l'ensemble de la culture et de la création humaine est constitué par ces devenirs animaux. Donc un terrain commun s'établit entre l'un et l'autre. Il n'y a pas de possibilité d'établir des ruptures. L'un devient l'autre. On pourrait dire que pour Deleuze, le problème de savoir de quelle façon l'animal se relie à l'homme et un problème de relation, de combinaison de l'un avec l'autre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, d'opposition ni de transcendance de l'homme, il n'y a pas de supériorité de l'un sur l'autre, mais il y a différentes formes d'agencement. L'animal lui-même a un monde parce que il peut être entièrement défini par la façon dont il est en relation avec ces différentes possibilités d'action sur ce monde. Il prend un exemple, vous verrez dans le passage que l'on a choisi dans l'abécédaire qui commence par animal. il y a Deleuze lui-même qui intervient et qui va parler d'abord de l'animal. Il va prendre comme exemple quelque chose de tout à fait simple, de tout à fait étrange, qui est un animal auquel on ne pense jamais. Il a pris cet exemple d'ailleurs chez un phénoménologue qui est à la fois un éthologiste, Huxeul, c'est l'exemple de la tique. Et avec une certaine forme de paradoxe, peut-être, de provocation, en parlant de l'animal, il va rejeter les animaux que l'on considère comme étant les plus humains, les plus proches de l'homme, il les rejette. C'est-à-dire qu'il commence par écarter. Par les écarter d'une certaine façon en disant que ce n'est pas ce qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est un animal tout à fait simple, tout à fait élémentaire, auquel on ne prête généralement absolument aucune attention, bien au contraire, mais parce que cet animal est peut-être une sorte d'exemple particulier, ce qu'on appelle un paradigme, on pourrait dire sinon un modèle, tout au moins un paradigme qui va montrer comment on doit considérer l'animal, on doit le considérer en relation avec ce qu'on appelle son territoire, mais qui sont également la limite de ses forces, la constitution de son monde, l'étude de ce qui définit la limite de ses pouvoirs. Et de la même façon, l'animal va être une sorte de modèle d'exemple, d'éclairement pour l'homme, c'est-à-dire que l'animal va donner lieu à une étude que l'on appelle l'éthologie, c'est-à-dire l'étude de ses comportements, c'est l'étude de ses comportements qui sont précisément la limite de ses pouvoirs, et il va aussi loin qu'il peut agir, et de la même façon, on pourrait dire que cette éthologie est ce que l'on appelle relativement à l'homme, et qu'il sera, et qu'il est peut-être relativement à l'animal, une éthique. C'est-à-dire il n'y a pas de différence fondamentale entre l'homme et l'animal, ils sont sur le même plan, ils appartiennent au même monde, ils sont constitués des mêmes matériaux, des mêmes atomes, des mêmes molécules. Seulement les pouvoirs de l'un vont différemment, plus loin que l'autre, peuvent être modifiés de telle et telle manière. Entre l'éthique et l'éthologie, en définitive, il y a une certaine forme de réciprocité. Deleuze nous présente tout à coup, dans ses différentes réflexions, dans ses différents chapitres, quelque chose qui est une sorte de réversibilité entre l'animal et l'homme. Entre éthique et éthologie, c'est toujours le problème de savoir jusqu'où peut s'étendre la puissance de mon action, c'est-à-dire de mon corps. Ici, ce n'est pas Leibniz que nous rencontrons, Leibniz qui a présenté un aspect, si l'on peut dire, de ce problème, de cette question concernant la relation entre l'animal et l'homme, autour de cette idée de la composition du monde dans une multiplicité, une infinité de monades dont les unes sont douées de telle forme d'expression, les autres de telle autre forme, mais c'est Spinoza pour lequel on pourrait dire peut-être au centre de la pensée de Deleuze, en tant qu'il est celui qui a affirmé l'unité de la substance, l'unicité de la substance, le fait qu'il n'y a pas de différence entre le corps et l'âme, que c'est la même chose, ce ne sont pas des substances séparées, c'est la même chose, la même substance veut de différentes manières, celui qui a affirmé que nous sommes tous des parcelles, des éléments, des parcelles ou des modes de la substance divine, c'est-à-dire de la nature. L'animal, pour me résumer, parce que je préférerais ensuite passer à des questions si vous en avez, et faire écouter la bande de l'abécédaire de Deleuze, l'animal pondeleuse est une réalité. J'allais dire serre à Deleuze. Ah non, la serre serait peut-être injuste et faussée la question. L'animal pour Deleuze est un être vivant, un être réel. Il est en quelque sorte quelqu'un avec qui l'homme fait société et qui mérite autant d'attention que lui. Donc il entre, il se classe parmi ce grand mouvement de penseurs qui, à l'heure actuelle, a porté notre attention sur la dignité de l'animal et sur ce que l'on pourrait appeler peut-être, sinon les droits des animaux, tout au moins la haute valeur, la dignité, le droit à l'existence et à la vie de l'animal. Je renvoie sur ce plan au livre d'Élisabeth de Fontenay, très intéressant, tout à fait fondamental même dans l'ensemble des documentations et des analyses qu'elle a présentées, qui s'appelle « Le silence des bêtes ». Deleuze y est cité d'ailleurs, Deleuze est même le premier qu'elle cite avec cette attention que Deleuze a portée à l'animal, qui fait partie intégrante de son système philosophique. Je m'y réfère pour prendre ce thème d'ailleurs, parce que mon attention a été attirée précisément là-dessus, le fait que par le biais de l'animal, par le biais de ce passage et de cet agencement fondamental que l'on peut découvrir dans l'œuvre de Deleuze entre l'animal et l'homme. On en trouve également des agencements au début de ses études littéraires dans Critique et Clinique. On en trouve également dans son étude sur la peinture chez Francis Bacon, en tant que l'œuvre picturale de Bacon et également cette façon de détruire une sorte de transcendance de l'humain et d'établir au niveau de la représentation, de la présentation de la figure, quelque chose qui est un devenir animal de l'homme, une façon de concevoir le corps de la même façon que le corps des animaux, non pas à partir du visage, mais à partir d'une tête qui est le prolongement du corps. Donc il y a toujours dans les études particulières spéciales de Deleuze sur tel et tel objet, sur tel et tel thème, quelque chose qui fait apparaître sous la forme de se devenir autre, de devenir quelque chose d'autre, le devenir animal. De la même façon, qui est en quelque sorte quelque chose qui est le premier, qui est toujours le premier dans la réflexion. Il y a toujours, dans le début de la réflexion, ce n'est pas le repli de « je pense » sur sa propre identité, mais c'est au contraire l'extériorisation, le mouvement de l'humain vers quelque chose qui n'est pas lui, vers quelque chose qui est l'animal. De la même façon que le mouvement de l'homme en tant que mâle, en tant que viril, vers la femme. Il y a toujours quelque chose qui est le mouvement autre, le devenir de sur... Mais ce n'est pas simplement une altérité vague, ce n'est pas simplement une altérité qui risque de donner lieu également à des formules toutes faites sur « je » et l'autre, l'autrui, etc. Non, ce sont des devenirs qui sont très déterminés vers quelque chose qui, justement, est dans le cadre de la pensée classique, d'où le changement fondamental qu'il a toujours revendiqué de l'image de la pensée, pour commencer la réflexion. Il faut détruire l'image de la pensée, ou alors une pensée que l'on pourrait appeler sans image, ou alors l'édification d'une autre image. Alors la destruction de l'image de la pensée va conduire vers ces agencements nouveaux, vers ces devenirs dissociés, pour créer des agencements, pour créer des associations d'un autre ordre, choisies pour les sectes, chez le minéral, pour l'adulte, chez l'enfant, c'est-à-dire tous ces non-sujets, c'est-à-dire ceux qui sont exclus du sujet philosophique, c'est l'idée par laquelle je voudrais terminer aujourd'hui, c'est ce qui est exclu du sujet philosophique classique, puisque j'ai commencé par cette opposition à la métaphysique cartésienne, ce qui est exclu du sujet cartésien classique, c'est-à-dire l'animal qui est animal-machine par rapport à l'âme, c'est-à-dire la femme, bien entendu, de toute façon, qui est exclue d'une façon générale du sujet philosophique traditionnel jusqu'à notre époque. Et qui peut-être d'ailleurs n'appartient plus exactement à cette catégorie du sujet. L'enfant qui n'est pas du tout sujet philosophique puisque il est en deçà Descartes lui-même dit j'ai été enfant avant d'être homme, donc à ce moment-là je n'étais pas à même de penser. L'animal qui est exclu puisque c'est une pure machine. N'oublions pas non plus la pierre, la roche, l'inorganique, tout cela qui est exclu, va entrer dans l'attention philosophique, va devenir le centre, au contraire du mouvement, on pourrait dire, de la construction philosophique, va être ce qui va apparaître d'abord sur le plan de la pensée philosophique sous la forme de ces associations, de ces agencements qu'il appelle aussi des devenirs. C'est-à-dire il va y avoir quelque chose qui, si l'on peut penser un premier acte de la réflexion de la pensée philosophique, va être d'abord d'opérer le recensement de ces différentes formes de regroupement à partir d'une dissociation, à partir d'une différence première, d'une différenciation première. Et c'est ainsi que Deleuze proposera pour la pensée philosophique, pour l'œuvre philosophique, cette construction qui est toujours à refaire, qui à chaque moment, à chaque question, à chaque problème et établissement d'un problème est à faire, cette construction de ce qu'il appelle un plan d'immanence de la pensée sur lequel les différentes stratifications auxquelles nous sommes habitués, celle de la pensée elle-même d'ailleurs, celle du moi, celle du je pense, celle des différentes catégories qui appartiennent au domaine des valeurs, au domaine des formes, des catégories et des classifications sociales, tout cela va être dissocié, se recomposer sur ce plan d'immanence de la pensée. Voilà à peu près ce que l'animal nous invite à réfléchir avec Deleuze. Ce n'est pas simplement le fait de faire attention à l'animal, de prêter attention à l'animal comme si c'était une altérité que l'on aurait à rapprocher de l'homme, bien qu'il ait écrit que l'homme qui souffre est une bête, la bête qui souffre est un homme dans son étude sur Francis Bacon. Donc il y a cette philosophie a une très profonde sensibilité à l'être de l'animal, à la, on pourrait dire, la, à la société que l'homme peut faire avec l'animal, à l'altérité, pour employer cette expression de l'animal. Mais le langage de Deleuze n'est pas du tout personnaliste, il n'est pas du tout moralisant. Son langage, c'est au contraire quelque chose qui exclut toutes ces formes, donc, avec l'animal, va s'en servir pour construire une nouvelle éthique, une éthique plus étendue, peut-être d'ailleurs que celle de Spinoza, puisque Spinoza n'a jamais, au sens explicite, au sens propre, fait entrer l'animal dans les agencements qui composeraient une société humaine. Je pense que Deleuze nous propose quelque chose qui est une forme de société d'ordonnance, de composition à la fois avec le vivant, avec l'inorganique lui-même, que Félix Guattari, qui se trouve tout à fait en accord, d'ailleurs, je crois, avec la pensée deleuzienne sur ce plan, avait appelé les trois écologies, ou encore l'écosophie, qui est quelque chose qui est en relation très étroite avec cette pensée, avec une forme de l'éthique à l'usage de la pensée contemporaine, de l'homme contemporain, qui ne comprendrait pas simplement les questions morales, politiques, traditionnelles dont l'homme a coutume de s'occuper dans la définition de ses disciplines morales et politiques, mais en même temps la préoccupation à l'égard de la terre, la préoccupation à l'égard du vivant en général, des animaux. Je termine par une allusion à une référence poétique que Deleuze faisait à ce propos dans le texte qu'il a consacré justement dans Foucault à un examen et à une réflexion sur ce que l'on avait reproché à Foucault, c'est-à-dire d'annoncer la mort de l'homme, un petit peu comme, comme on a reproché à Nietzsche, avec le surhumain de glorifier, de magnifier la puissance, la toute-puissance sur... et de légitimer la violence étatique, tout à fait à tort, mais pour ceux qui pensaient Nietzsche dans le cadre d'une préfiguration et d'une justification du nazisme, de la même façon, on avait reproché à Foucault d'avoir écrit à la fin de Les mots et les choses, l'homme, la figure de l'homme doit s'effacer comme une trace sur le sable, je ne me rappelle plus exactement la citation. Et une annexe de Deleuze dans la fin de Foucault, je vous renvoie vers cette annexe, montre précisément qu'il ne s'agit pas du tout de la construction, de la disparition de l'homme, ni de la construction d'un univers inhumain, mais au contraire d'élargir et de libérer toutes les forces, tous les langages, toutes les possibilités d'agencement, d'association qui étaient recouvertes par cette figure conventionnelle de l'homme en tant que renfermé dans sa propre image, renfermé dans sa propre conventionnalité. Il cite alors à la fin, et c'est très intéressant ce qui me permet de conclure là-dessus, il cite à la fin Rimbaud. Il se réfère à Rimbaud et à une de ses lettres de Rimbaud que l'on a recueillie sous le titre de lettre du voyant, parce qu'il y parle du voyant. Et Rimbaud parle du poète. Et il parle du poète en disant que le poète va être... la poésie va être va marcher en avant, ne va pas se contenter simplement de rythmer l'action, mais de marcher en avant, et que le poète est chargé ici de cela. Le poète est vraiment voleur de feu, c'est-à-dire comme Prométhée. Il est chargé de l'humanité, des animaux même. Et de là, je commente cette partie de la phrase de Rimbaud, cette expression « chargé des animaux », qu'est-ce que cela veut dire? C'est précisément ce qui est la tâche de non seulement du poète, mais peut-être à l'heure actuelle justement du philosophe, c'est-à-dire d'être chargé des animaux, d'être comme... il le dit également dans Mille Plateaux, d'ailleurs, déjà d'être responsable des animaux, pour les animaux, mais responsable devant eux-mêmes, c'est-à-dire que l'homme est devant les animaux responsable de ses propres actions. Donc il y a quelque chose qui est non pas une prise en charge pour les dominer, mais une prise en charge pour avec eux, à leur écoute, inventer, dit-il, découvrir de nouveaux codes, de nouveaux langages. Ce que d'ailleurs il a essayé, il a fait lui-même, dans des analyses qu'il a consacrées justement aux différents animaux de la littérature de Lorenz, de Melville, etc. Bon, j'ai terminé là-dessus parce que il aurait fallu apporter effectivement beaucoup plus de compléments et d'analyses à ce que j'ai dit. Mais enfin, peut-être la discussion permettra-t-elle de clarifier certains points qui ont été évoqués. Merci infiniment de l'avoir écouté. Mais il faudrait... J'aimerais peut-être alors que l'on puisse écouter Deleuze, s'il était possible de l'avoir dans son abécédaire. Oui. Non, on ne peut pas l'avoir. Ah, c'est ici, alors. Ça, il faudrait que je me déplace, alors. C'est une dizaine de minutes, je crois. Attendez, comme je suis sourd, c'est ça. Ça n'arrange pas beaucoup les choses. Mais je me mets là.